Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Quels sont les éléments indispensables à noter sur notre checklist si on veut triompher dans le désert? Hey, quand je pense au désert, ça me rappelle, ou ça me ramène plutôt instantanément à notre séjour aux USA avec mon épouse Sonia alors qu'on était jeunes mariés. Tu vois, on vivait à Los Angeles en Californie. On était presque toute l'année en short et en manches courtes, tellement il faisait beau et chaud. En fait, c'était le rêve. Jusqu'au jour où on a décidé d'aller vivre au Tennessee. On a donc chargé notre vieille Ford Escort avec quelques bagages et on s'est lancé dans notre périple. On a passé plus de 2 mois sur les routes américaines en dormant plus ou moins sous tente dans des campings sauvages, des campings désertiques. Bref, la grande aventure. Et c'est là que nous avons parcouru des milliers de kilomètres dans les déserts du Grand Bassin, de Sonora et du plateau du Colorado. Et tu vois, à l'entrée de chacun de ces déserts, il y a cette grande pancarte. C'est cette pancarte qui t'indique que non seulement tu es dans un parc national, mais aussi qui t'indique tous les dangers à prévoir. Les araignées, les serpents, les scorpions. Et il y a aussi toute une longue checklist comme ça de tout ce que tu dois prévoir pour voyager en toute sécurité. Premièrement, de l'eau potable, mais aussi de l'eau pour ta voiture en cas de surchauffe. Il faut penser à la nourriture, à la crème solaire, au spray, à l'anti-moustique, au tire-venin, et j'en passe. Car tu vois, il est très important de visualiser les composantes naturelles et spécifiques qui constituent cet environnement vraiment hostile. On pense tout de suite au soleil et au sable, et la vérité, c'est qu'on oublie trop souvent le vent et le froid qui peuvent être saisissants. Et tu vois, même sous ces latitudes. Alors pour faire court, voilà qu'un jour, j'avais hyper froid sous notre tente. On avait déjà enfilé, je ne sais pas combien de t-shirts, car c'est plus ou moins tout ce qu'on avait prévu comme habit. Et on était blottis l'un contre l'autre avec mon épouse Sonia. On essayait de garder la chaleur dans nos sacs de couchage. Et je m'entends encore lui dire, chérie, je ne vais pas passer la nuit, je suis gelé. Et puis il y avait cet étrange bruit, comme si les pommes de pin du sapin sous lequel on était tombaient sur la toile de notre tente. Alors, quelle a été notre surprise au petit matin quand on a réalisé que le bruit des pommes de pin n'était rien d'autre qu'une épaisse couche de neige qui avait recouvert tout le campement. Et c'est là, à tout juste 20 ans, qu'on a réalisé pourquoi c'est indispensable d'avoir une checklist, si tu veux, triompher dans le désert. Amen. Hey, si tu es d'accord, allons premièrement explorer ensemble quelle est la signification du désert dans la Bible. La Bible fait souvent référence à des régions sauvages où il n'y a pas de population établie, où vivent des animaux comme les vautours ou les chacals, désignés aussi comme un terrain aride, non cultivable, désolé et dénudé. L'ensemble de l'histoire biblique a été en quelque sorte interprété comme ayant un aspect de désert ou de région sauvage. Tu vois, on peut l'observer dans le domaine de l'expérience humaine désobéissante en dehors du Jardin d'Éden, dans l'errance d'Israël lors de l'Exode, mais aussi dans ce conflit qu'il y a entre une foi pure dans le désert et une vie citadine amorphe et idolâtre. Cependant, il y a tellement de beaux passages émouvants de l'Écriture qui traitent du renouveau de la vie dans une vallée désertique. Et le prophète Ézéchiel, que j'affectionne particulièrement, nous parle d'une large vallée couverte d'ossements complètement desséchés où la puissance du Seigneur l'a carrément saisie. Ézéchiel 37, le verset 3-5, si tu as ta Bible, viens avec moi, il est écrit « Alors le Seigneur me demanda, c'est Ézéchiel qui parle, « Toi, l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Ézéchiel y répondit « Seigneur, Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit « Parle en tant que prophète à ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez. » J'aime trop ça, « ossements desséchés, écoutez. » Tu te vois parler à des os ? Ézéchiel l'a fait. « Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. » Et j'aime trop cette notion dans le désert, là où peut-être nos vies sont desséchées, nos vies sont complètement amorphes. Dieu a cette capacité de venir souffler et de donner la vie là où tout est désertique. Amen. Mais j'aime tellement aussi ce verset dans le chapitre 41 d'Ésaïe qui nous peint la transformation d'une terre aride en jardin productif. Ésaïe 41, le verset 18 nous dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Et le verset 20, Dieu dit qu'il a fait tout ça, pourquoi ? Afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Tu vois, le désert est certainement un lieu où Dieu est proche de son peuple, à la fois pour veiller sur son peuple, mais aussi pour tester son obéissance. Le désert est un lieu de refuge, de purification et même de consécration. Alors les amis, maintenant qu'on a pu survoler certaines caractéristiques du désert à la lumière de la parole, j'aimerais te suggérer de noter sur ta checklist 3 points indispensables si tu veux triompher dans le désert. Est-ce que tu es là? Tu es prêt? Yes! Car la vérité, c'est qu'on va tous se retrouver dans le désert à un moment ou l'autre de notre vie. Sans aucun doute. Il y a tous les déserts qui touchent notre être affectif. Quels sont les conflits que tu as peut-être dans ton couple avec une personne qui t'est chère? Mais il y a aussi les déserts professionnels. Une perte d'un emploi, un patron abusif, des collègues difficiles à vivre avec. Il y a les déserts familiaux, les déserts financiers, les déserts qui touchent à notre santé physique, psychique, mentale, et même les déserts spirituels, où on a de la difficulté à entendre Dieu. Alors, mon premier point, si tu veux triompher dans le désert, il est indispensable de savoir que tu es aimé. Quand tu as cette certitude que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, quand tu reçois l'approbation de ton Père céleste, alors tu deviens un gagnant dans la vie. On peut lire dans le premier chapitre de la Genèse que Dieu créa l'homme à son image. Mon ami, tu n'es pas un accident, un produit du hasard ou simplement une erreur, mais bel et bien créé et voulu par Dieu. Ton Père terrestre t'a peut-être rejeté, mais crois-moi, ton Père céleste t'appelle son bien-aimé. Hey, n'oublie jamais cela, c'est vraiment important. Aujourd'hui, Dieu ne t'évalue plus, ne te juge plus en se basant sur qui tu es. Dieu évalue et juge les croyants aujourd'hui en se basant sur l'homme parfait qui siège à sa droite. Il se base sur Jésus. 1 Jean 4, 17 nous dit « Tel il est » en parlant de Jésus, « Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. » Waouh! C'est tellement puissant ce verset. Alors, permets-moi de te dire, arrête de te poser la question si tu es accepté de Dieu. C'est une très mauvaise question. Demande-toi plutôt, est-ce que Jésus est accepté par Dieu? L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » L'histoire de Jésus est l'exemple parfait d'un homme qui savait qu'il était aimé de son Père. Et la preuve se trouve dans le récit de son baptême dans la rivière du Jourdain. Tu vois, Jésus n'avait encore fait aucun miracle. Et pourtant, son Père lui donna son approbation quand il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu ne t'aime pas parce que tu sers le dimanche à l'église. Dieu ne t'aime pas pour tout ce que tu fais ou tout ce que tu ne fais pas. Mon ami, Dieu t'aime parce qu'il te voit au travers de son Fils et il t'appelle son Fils bien-aimé également. Et en sachant que Jésus était aimé de Dieu, il est entré dans la vie, s'est battu et a vaincu la mort. Si tu crois que tu es bien-aimé de Dieu, alors tu vas triompher dans le désert. Regarde, Jésus triompha à 3 reprises, alors que le diable s'acharnait sur lui. Comment il a fait cela, le diable? Eh bien, il a simplement négligé de prononcer un mot dans sa narration avec Jésus. Tu vois, Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et le diable, lui, il dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres, par exemple, deviennent des pains. » Où a passé bien-aimé? La vérité, c'est que le diable sait très bien que lorsque tu es pleinement conscient que tu es le bien-aimé de Dieu, alors le péché, il n'a plus aucune emprise sur toi. Amen. Mon deuxième point, si tu veux triompher dans le désert, il est indispensable de renouveler tes pensées. Paul a dit dans Romains 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Waouh ! J'aime trop la version paraphrasée du message en anglais que je vais vous lire dans une traduction libre et qui nous dit de ne pas nous adapter à notre culture au point de nous y fondre sans même y penser. Au contraire, fixons notre attention sur Dieu, nous serons changés de l'intérieur, reconnaissant facilement ce qu'il attend de nous en y répondant rapidement. Tu vois, contrairement à la culture qui nous entoure, qui nous entraîne toujours vers son niveau d'immaturité, Dieu fait ressortir le meilleur de nous en développant notre maturité. Et comme ça, on devient juste incroyable, selon l'image de Dieu. Amen. Et tu vois, dans le désert, il est facile, très facile d'avoir des hallucinations, appelées aussi des mirages. Et j'aimerais utiliser cet exemple parce que combien de fois tu t'es retrouvé dans cette situation où les températures étaient tellement élevées que le sol te donnait cette impression qu'il y avait une flaque d'eau devant toi? Eh bien, mon ami, c'est pas vraiment différent avec nos pensées. Tu vois, quand ça commence à chauffer là-haut, on a tendance à voir, à croire à des choses inexistantes que seuls nous croyons. Et c'est là qu'il faut changer notre confession. Car tu vois, les mots ont un pouvoir créatif quand tu les prononces à haute voix. Ils se forment dans nos cœurs, se développent comme un film dans nos esprits, nous les transformons ensuite vers notre langue, à l'intérieur de nos joues, et finalement, on les fait glisser sur nos lèvres. Et tu vois, les mots construisent un récit vivant, et dans ce processus, ils donnent le ton et le rythme de la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fil du temps, la Bible a passé de la tradition orale au mot écrit. Et je me demande sérieusement si nous n'avons pas perdu quelque chose d'essentiel. Est-il possible que nous considérons maintenant de lire la Bible silencieusement plus important que de vivre la Bible comme un récit parlé, une parole vivante? C'est une chose de croire que tu es aimé, c'est important. Mais quand tu déclares que tu es aimé, cela donne une toute autre signification. D'ailleurs, Proverbe 18:21 dit « Les paroles peuvent être source de vie ou de mort ». Quelle est ta confession ce matin? Est-ce que tu proclames davantage les opportunités ou les limitations? Mes amis, il faut être intentionnel pour ne pas céder aux pensées négatives qui tentent toujours de nous écraser et de nous dévaster. Il est courant de laisser nos propres sentiments régner, mais quand tu fais cela, ne sois pas étonné, ces pensées négatives, elles vont toujours t'emprisonner et tu vas perdre à coup sûr. En conséquence, tu ne seras pas transformé à l'image de Dieu, mais bel et bien conformé à l'image du monde. La réalité, c'est que la bataille, mes amis, la bataille commence toujours dans notre esprit et non pas dans notre comportement. Parce que la façon dont nous pensons détermine la façon dont nous sentons. Et la façon dont nous nous sentons détermine notre façon d'agir. Si nous voulons changer notre façon d'agir, nous devons commencer par changer notre façon de penser. Et si nous voulons changer notre façon de penser, mes amis, nous devons commencer à réfléchir à quoi nous pensons. Et dans la lettre aux Éphésiens, Paul nous encourage à nouveau à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu vois, notre vieil homme a été crucifié avec le Christ sur la croix. C'est un fait et maintenant, nous avons cette réalité quotidienne, cette tension entre nos pensées, notre intelligence et l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Mes amis, il y a une vraie bataille. Satan veut brouiller ton esprit avec toutes sortes de pensées, et particulièrement des pensées négatives, des pensées destructives. Mais Christ veut renouveler ton esprit, saturer tes pensées, ton imagination, ton analyse des choses et tout ce pourquoi tu utilises ton intelligence. Laisse-moi te donner un exemple. Si tu es privé de nourriture, tu vas premièrement te sentir mal, de mauvaise humeur, certains plus vite que d'autres, faible et finalement léthargique. Tu n'auras qu'une envie, c'est celle d'aller te coucher. La même chose est vraie à propos de la parole de Dieu qui est de la nourriture pour notre esprit. Jésus a dit « L'homme, il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Tu as besoin de nourrir quotidiennement ton esprit avec la parole de Dieu. Autrement, devine, tu vas devenir léthargique. Et permets-moi d'ailleurs de te poser une question. Est-ce que tu crois à tout ce que tu vois à la TV, tout ce que tu entends à la radio ou tout ce que tu lis dans les journaux? Certainement pas. Alors comment se fait-il, les amis, qu'on passe plus de temps à regarder, écouter, lire tout ce que nous ne croyons pas? La vérité, c'est que tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit va modeler la personne que tu deviens. Et d'ailleurs, si tu absorbes du poison, tel que de la violence, de la pornographie et tant d'autres choses négatives, eh bien, tu finiras contaminé, à coup sûr. Et peut-être, plusieurs personnes font face au découragement, à des épreuves qui ont pris le dessus, qui ont saturé leur esprit avec des pensées négatives, des pensées peut-être même suicidaires. Hey, laisse-moi t'encourager à ne pas rester seul dans ton désert. N'attends pas plus longtemps. Ne reste pas seul dans ton désert. Amen. Waouh. Hey, si tu veux donc triompher dans le désert, souviens-toi, il est indispensable de savoir que tu es aimé de Dieu. Il est indispensable de renouveler tes pensées avec la parole de Dieu. Et mon troisième point, si tu veux triompher dans le désert, il est indispensable de ne pas abandonner. Par là, je veux dire entretenir une mentalité, cultiver un état d'esprit où l'abandon n'existe pas. Il n'y a pas d'option pour abandonner. Tu vois, Jésus aurait eu toutes les bonnes raisons d'abandonner, lui qui était mutilé dans sa chair, confronté à des souffrances extrêmes. Et pourtant, par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour son Église, il a poursuivi sa marche jusqu'à Golgotha, où il a finalement été crucifié. Et quand je pense à la conséquence d'un manque de persévérance, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler de cette histoire que j'ai entendue il y a quelques temps. En fait, c'est deux gars, Darby et son oncle, qui étaient partis à la conquête de l'Ouest pour chercher de l'or. Et après avoir creusé quelques semaines à l'aide d'une simple pelle et d'une pioche, ils ont finalement trouvé de l'or. Ils sont alors partis en ville, ils ont décidé d'acheter des machines pour creuser plus profond. Mais voilà qu'après seulement peu de temps, ils réalisèrent que c'était la fin, il n'y avait plus d'or. Et tu vois, découragés, désespérés, ils ont choisi de vendre leur machine à un brocanteur pour quelques centaines de dollars et ils sont retournés chez eux. Quant au brocanteur, ce gars, il avait quelque chose ici. Il a fait appel à un de ses meilleurs amis ingénieurs qui, lui, a fait de nouvelles mesures de la roche. Et devine, à seulement 90 cm de là, où Darby et son oncle avaient abandonné, le brocanteur trouva tellement d'or qu'il gagna des millions de dollars. J'aurais voulu être ce brocanteur. Mes amis, dommage que Darby et son oncle n'aient pas appliqué cette vérité qu'on peut lire dans 2 Chroniques, le chapitre 15, au verset 7. Il est écrit « Mais vous, maintenant, soyez forts, ne vous découragez pas. Vos efforts seront récompensés. Tes efforts seront récompensés. » Permets-moi de te poser une question. Quelles sont les circonstances qui t'ont fait abandonner, qui t'ont fait baisser les bras? Car tu peux prier autant que tu veux, sans pour autant te préparer à recevoir la bénédiction. En fait, j'entends par là, c'est comme si t'étais perdu au milieu du désert et que tu priais pour que la pluie tombe du ciel, sans pour autant creuser un puits pour la contenir. Comment veux-tu que Dieu déverse ses bénédictions si tu es immobile? Et j'aime tellement ce que Paul a dit aux Philippiens alors qu'il était emprisonné à Rome, donc immobile dans sa prison. Il dit « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Tu vois, Paul avait beau être immobile dans sa prison, son esprit était en marche, son esprit était libre. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse saisir cette vérité. Tu vois, sans aucun doute, Paul savait qu'il était aimé. Paul savait renouveler ses pensées en proclamant les promesses de Dieu et en proclamant qui il était en Christ. Et finalement, Paul est l'exemple parfait de quelqu'un qui n'a jamais abandonné. D'ailleurs, merci Paul, car ces lettres, elles nous impactent encore aujourd'hui. Alors en conclusion, j'aimerais te dire que les déserts dans nos vies sont là pour renforcer nos convictions. Les déserts dans nos vies sont là pour renforcer nos convictions. Ils ne sont pas là pour nous écraser. Et j'aime trop cette citation de Matsua Dwilao qui a dit « Si une fleur peut s'épanouir dans le désert, alors vous pouvez vous épanouir partout. » Laisse-moi te dire, si une fleur peut s'épanouir dans le désert, alors tu peux t'épanouir partout. Amen. Et j'aimerais encore t'encourager, Église. T'encourager où que tu sois. Ne t'arrête pas de croire, car tu es aimé de Dieu. Ne t'arrête pas de proclamer ses promesses, ses vérités, car Dieu va élever ta pensée. Et finalement, ne t'arrête pas d'avancer, car Dieu est là à tes côtés chaque jour de ta vie. Tu vois, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Pour toi, pour tes amis, pour ta famille, pour ton mariage, pour tout le monde. Afin de quoi? De te donner un avenir rempli d'espérance. Et je proclame cette parole dans le beau nom, dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toi aujourd'hui qui peut-être te retrouve face à une situation qui ressemble étrangement au désert. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses trouver en lui la force nécessaire pour surmonter ces circonstances, ces épreuves auxquelles tu fais face. Seigneur Jésus, je prie que tu parles au cœur, que tu puisses déverser ta faveur sur chaque personne qui est peut-être épuisée, malmenée, découragée, meurtrie, perdue ou même qui se sent abandonnée. Seigneur, je prie pour qu'on puisse avoir une confession en tant qu'Église qui s'aligne à toi et que tu puisses fortifier ton Église afin que nous te suivions et qu'on puisse continuer et ne jamais abandonner. Amen. Dans le nom de Jésus, les amis, je crois que Jésus est présent au milieu de nous. Et peut-être aujourd'hui, tu n'as jamais pris la décision de connaître Jésus. J'aimerais prendre encore un moment maintenant. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais te dire que Jésus est venu. Il est mort et ressuscité pour te donner une vie remplie, te donner une vie large, une vie épanouie. Et ce qui est extraordinaire, maintenant et pour toujours. La Bible nous parle de l'éternité avec Dieu. Et si tu n'as jamais demandé de venir à Jésus dans ta vie, ou peut-être que tu t'es éloigné de lui, aujourd'hui, c'est ton opportunité. Pourquoi ne pas prier cette prière ensemble? Est-ce que tu es prêt là où tu es? Prie cette prière avec moi de tout ton cœur. Père éternel, merci pour ton Fils Jésus. Il est venu, il est mort, il est ressuscité pour me donner la vie maintenant et pour toujours. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour mes erreurs du passé. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur pour tous les jours de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, amen et amen.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.hillsong.fr.